personne. Tandis qu'un cachet d'aspirine, ça fait du bien. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, c'est un chimiste qui a aidé l'humanité en ayant cette grâce d'avoir inventé l'aspirine. Je vous donne cet exemple en passant antenne. Alors qu'énormément de gens de bonne volonté, de gens d'esprit, je pense par exemple, bon, je ne vous donne pas d'exemple, et chez les goïms et chez les juifs, ont un discours sur le bien d'une haute spiritualité, et puis ça n'a pas l'efficacité d'un cachet d'aspirine. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, prenez par exemple tous ces médecins qui deviennent des médecins pour lépreux. Ce sont des hommes de la matière qui font du bien. Oui. Le docteur Schweitzer, ça vous dit quelque chose? Des gens comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est voué à la matière qu'on est forcément rachard. Seulement, c'est difficile. C'est clair? Alors, l'autre problème, ça je crois que ça va de soi, enfin que vous le compreniez plus facilement, c'est pas parce qu'on est voué à l'esprit qu'on est forcément un sadique. Vous avez énormément de gens qui sont voués à l'esprit et qui sont d'Erchaïm pointés. Il n'y a qu'à penser à l'Inquisition. Tous les barbares, les tortionnaires de l'Inquisition, c'était des gens pieux, à leur manière, mais ils étaient très pieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou si vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans l'islam, tous ces fanatiques de l'islam qui sont des barbares, c'est des gens de la piété musulmane. Et puis vous avez aussi chez les juifs des gens très pieux qui sont extrêmement agressifs, qui sont violents, qui sont immoraux. Ça existe. Hein, vous savez cela. Alors, l'équation est très claire. Au point de départ, ce qu'il y a à résoudre, c'est le problème matière et esprit. Et dans les deux cas, on pourrait être ou tzadik ou rachar. Donc la constellation qui se cherche, c'est un homme de la matière qui serait tzadik et un homme de l'esprit qui serait tzadik. Et s'il y a amour entre eux, amour fraternel entre eux, le problème est résolu. C'est clair? Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans le récit, et ensuite on avancera un peu dans le texte, il s'est passé que Isaac a une vision des choses qui est la suivante. Ésaü a choisi la vocation matérielle, il faut qu'il reçoive la bénédiction matérielle et il partagera avec son frère. Jacob a choisi la vocation spirituelle, il faut qu'il reçoive la bénédiction de la vocation spirituelle et il partagera avec son frère. Voilà le plan de Isaac. Vous avez remarqué dans le récit qu'on sait qu'entre-temps Ésaü était devenu rachat, mais Isaac fait comme s'il ne le sait pas. Isaac tient à donner la bénédiction à Ésaü. Laquelle? Celle de la matière. C'est pourquoi je vous ai demandé de vérifier ces versets. Il y a deux bénédictions en jeu et elles sont différentes. Une, c'est la bénédiction des tâches matérielles, la rosée du ciel et le gras de la terre, vous vous rappelez de cela? Et ça, c'était prévu pour Ésaü. L'autre, c'est la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, dans tous les cas, elle est pour Jacob. Pourquoi? Et là, j'ajoute une clause importante. Parce qu'entre-temps, on apprend qu'Ésaü a pris des femmes étrangères, alors que Jacob, lui, va prendre des femmes dans la famille d'Abraham. Donc la bénédiction d'Abraham appartient à Jacob, et Ésaü n'a que la bénédiction matérielle. Tellement, le plan de Isaac ne peut réussir que s'il y a amour entre les frères. Rivka, qui est la mère, sait que les frères ne s'aiment pas. Et par conséquent, elle doit intervenir. Étant donné que les frères ne s'aiment pas, si Ésaü a la bénédiction matérielle, il ne partagera pas avec Jacob, Jacob n'aura pas de place sur terre, et si Jacob n'aime pas Ésaü, Ésaü n'aura pas de place dans le monde à venir. Jacob ne partagera pas la vie de l'esprit avec Ésaü, et Ésaü ne partagera pas la vie de la matière avec Jacob, les deux sont perdus. C'est ce qu'elle dit. Suivez jusque-là, c'est pas trop difficile. Okay? Et alors, avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre ceci. C'est un peu difficile, mais j'espère que vous allez le comprendre. Que le rachat n'aime pas le tzadik, ça nous semble évident. Effectivement, le rachat n'aime pas le tzadik. Le tzadik gêne le rachat. Mais que le tzadik n'aime pas le rachat, ça pose un problème. Et je vais le dire d'une autre manière. que Ésaü n'aime pas Jacob, on comprend. Mais que Jacob n'aime pas Ésaü, c'est un problème. Or, Jacob n'aime pas Ésaü. Et nous allons d'ailleurs étudier un verset à ce propos. Là, je vais ouvrir quand même une parenthèse avant d'aller plus loin dans l'analyse. Que Jacob n'aime pas Ésaü. Ça, nous avons étudié avec nos maîtres parce que c'est un problème très difficile. Est-ce qu'on a le droit de haïr le rachat? Est-ce que le tzaddik a le droit de haïr le rachat? Je poserai même la question à l'envers. Est-ce qu'on peut faire autrement? Un tzaddik qui aime un rachat, c'est un drôle de tzaddik. C'est-à-dire un tzaddik qui ne haït pas le rachat, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Un tzaddik qui protège le rachat, il y a une certaine complaisance qui fait que le tzaddik risque de devenir le complice du rachat. Vous avez suffisamment l'expérience de la vie pour le savoir. Hein? Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe au gouvernement actuellement. Il y a des soi-disant tzadikim qui sont complices de soi-disant tzadikim.
Mais est-ce que c'est pas justement le but du tzadik de voir dans le rachat finalement ce qui devient?
C'est ça. C'est ça. Mais la question qui se pose, c'est comment comprendre que Jacob n'aime pas Ésaü? Nous allons voir à quel niveau est la solution. Mais d'abord, il faut découvrir que c'est normal. Comment voulez que Jacob aime Ésaü? Comment voulez qu'un tzadik aime un rachat? Je vais vous donner mon expérience, qui est un petit peu spéciale, mais quand même qui peut vous éclairer. Et comme vous savez, j'ai fait la guerre dans l'armée française contre les Allemands. J'avais en face de moi des SS. Bon, quand on est en corps à corps avec des SS, c'est ou lui ou moi, c'est clair. Et alors, je pensais plus ou moins rapidement à ces choses-là sur le front. Je me disais, ce commandement que le tzaddik doit aimer le rachat, comment je vais faire ça avec un SS? Vous comprenez le problème? Est-ce qu'un SS est aimable? Est-ce qu'on peut? Enfin, grâce à Dieu, vous ne savez pas ce que c'est un SS. C'est le monstre à l'état pur. Mais ceci dit, voilà quel point. Est-ce qu'on peut aimer un rachat? C'est pas possible. Au contraire, on a le devoir de le haïr et d'annuler ça de dessus la terre. C'est clair. Jacob est incapable d'aimer Ésaü et il a raison. Est-ce qu'un. Hein? Par plus fort. Par plus fort.
C'est des frères, en même temps, Jacob était tzaddik et Ésaü rachat, mais également frère.
Oui.
Alors,
au contraire, ça complique plus. C'est pire. Un frère rachat, c'est pire. Écoutez, je comprends très bien que c'est difficile, il faut avoir l'expérience de la vie. Concrètement, ça n'a rien à voir avec la littérature. Au niveau littéraire, puisque c'est des frères, postulat, ils doivent s'aimer. Jamais de la vie. Vous savez très bien que les pires ennemis, ça arrive chez les frères. Plus on est proche et que ça ne marche pas, plus on devient loin. Ça, c'est l'expérience de la vie qui le montre. Il n'y a rien de pire qu'un frère qui ne soit pas capable d'être frère. Et on va voir ça par différents niveaux. Premièrement, il faut découvrir que c'est très difficile pour un tzaddik d'aimer un rachat. Et je dirais même l'inverse. Est-ce que le tzaddik n'a pas l'obligation de haïr le rachat? Parce que sinon, il risque d'être et sa victime ou son complice.
Quel que soit le rachat.
Quel que soit le rachat.
Mais il y a une différence quand il est juif et quand il n'est pas juif. Oui,
quelle différence? Quand un assassin vient t'assassiner, tu vas lui demander, tu es juste, tu peux m'assassiner? C'est un rachat, quand même. Et, attends, j'ai pas fini, je vous poserai vos questions après. Et, voilà ce que la Torah enseigne. On doit haïr la conduite du rachat, mais pas sa personne. Mais c'est ça qui est difficile. On doit haïr les agissements du rachat, mais pas sa personne. Mais c'est ça qui est difficile. Quand vous avez en face de vous, c'est pourquoi je vous dis, pensez à cela. Pensez à ça dans les situations concrètes de la vie. C'est pour ça que je donnais cet exemple des SS. On ne peut pas penser à ce problème abstraitement. Okay. Ce que la Torah dit, et nous avons plusieurs exemples dans les récits de la Torah, c'est que on doit haïr les agissements du rachat, mais pas sa personne. Seulement, c'est absolument difficile. En fait, il faut comprendre. Et je voudrais que vous compreniez bien ça. Après, on passera à un autre stade. Que Jacob n'aime pas Ésaü, eh bien, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi, chaque fois que la relation des frères n'arrive pas à s'installer, il faut se séparer. C'est clair. Quand, seulement, effectivement, ça empêche d'arriver à une solution. Nous allons étudier un verset. Vous allez voir jusqu'où va le problème. Alors, une minute que je vous trouve le RP. Ça devrait être chapitre 27, une minute. Voilà, chapitre 27, premier verset 41. Chapitre 27, verset 41. Kavzaïn, même à l'heure. Tu veux bien. Vous y êtes ? Ça y est ? Alors, j'ai le verset. C'est lorsque Ésaü a été frustré de sa bénédiction après avoir perdu le droit d'aînesse, l'aînesse, la Bechora, il y avait lui-même renoncé. On va voir tout à l'heure de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il a renoncé à Olam Haba et il préfère garder Olam Hazeh. Et voilà que la bénédiction de Olam Hazeh lui est prise par son frère. Alors il est perdu. Il y a une frustration absolue. Il sait qu'il n'a pas Olam Haba, d'ailleurs il n'y croit pas, il n'en veut pas, mais même Olam Hazeh lui est enlevé. Vous y êtes, vous voyez le drame des abus. Je vais vous le rendre. Pas sympathique, mais pitoyable. C'est un homme frustré absolument. Et les psychologues savent que c'est précisément la frustration qui mène à la haine. J'attends que tu trouves ton verset, toi. Ça y est ? Allez, bon, alors ne fais pas de bruit. Et il y a un grand psychiatre contemporain, vous avez sûrement entendu parler de lui, le professeur Baruch. Ça vous dit quelque chose ? C'est vraiment un grand homme, il est très vieux maintenant, qui a étudié cela. Il a étudié les névroses d'antisémitisme. Il a établi que l'antisémitisme est de l'ordre de la maladie mentale et que ça ressort d'une frustration absolue. C'est-à-dire l'antisémite, c'est quelqu'un qui plus ou moins inconsciemment découvre que la bénédiction est sur les juifs. Alors, quand lui est goy, il est tellement frustré qu'il se met à haïr les juifs, tout simplement parce qu'ils sont juifs. Vous voyez ce que je veux dire, en schématisant. Il a d'ailleurs été victime lui-même il était le directeur de Sainte-Anne, de l'hôpital à Paris, l'hôpital des fous. Et une fois, un des antisémites l'a agressé. Mais j'ai beaucoup étudié ces choses-là avec lui. La frustration mène à la haine. Pourquoi il faut se méfier lorsque on frustre quelqu'un. Et il faut se méfier qu'on met la haine. Une bombe à retardement qui un jour finira par éclater. Parce que quelqu'un se sent frustré de quelque chose qui croit lui appartenir, ça déclenche des comportements de haine. Est-ce que c'est clair ? Bon. Alors, il y a un problème entre le peuple juif et le reste de l'humanité, on n'y peut rien. L'humanité entière sait que Dieu s'occupe du peuple juif. La preuve, même les pires anti-juifs le sont au nom du livre des juifs, la Bible. Hein ? Et là, il y a une frustration, donc vous ne pouvez pas avoir idée, parce que vous êtes né juif, que le goy en veut aux juifs, que ce n'est pas lui le goy qui est le juif. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je veux dire d'une autre manière. Le pire problème des chrétiens croyants, c'est qu'ils n'arrivent pas à avaler que leur bon Dieu était juif. Ça ne leur passe pas. On n'a aucune idée à quel point ils sont embêtés de ce problème. Et ils sont, c'est rare. Non, un juif, stable. ils sont très embêtés. Et les chrétiens noirs ont un problème supplémentaire parce qu'on leur fait adorer un juif blanc. Il n'est même pas noir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, lorsqu'Ésaü s'aperçoit qu'il est frustré de ce qu'il croyait être son bien propre, la bénédiction des biens maternels, des biens matériels, okay, alors il haït Ésaü. Et nous allons voir le verset. Alors c'est le verset 41 du chapitre 27, je vous le lis. Vaïstom Esav et Yaakov, et Ésaü haït Jacob. Vous avez une Bible en français, quelqu'un? Oui, non? Comment on vous traduit? Qui a une Bible en français? Personne? Non. Alors, le terme, personne a le français sous les yeux? Alors, hein? Voilà, pris Jacob en haine. C'est le terme hébreu qui signifie la haine absolue. Cite-moi, Vaïstom. Esa avec Yaakov, à la beracha, asher beracho aviv, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Alors on va essayer de comprendre le verset. Il s'agit de la bénédiction donnée à qui? À première vue, on a tendance à lire que Ésaü a haï Jacob à cause de la bénédiction que son père Isaac a donnée à Jacob, au lieu de la lui donner à lui. C'est clair? Alors regardez bien. Ce que le texte dit en hébreu, c'est l'inverse. Que Ésaü a haï Jacob à cause de la bénédiction que son père Ésaü a donnée à Ésaü quand Jacob a pris l'autre bénédiction. Quelle bénédiction de remplacement Isaac a donnée à Ésaü? Vous vous rappelez du texte? Plus fort. Non. Alors vous n'avez pas suivi. Ça, on verra dans le deuxième cours. Tu t'es mélangé. Ne mélange pas avec quelqu'un d'autre. Vous n'arrivez pas à suivre ce qui se passe. Suis ce qui se passe avec lui. La bénédiction d'Abraham, elle est à Jacob et elle sera donnée à Jacob. La bénédiction d'Ésaü, c'était la bénédiction matérielle qui a été donnée à Jacob. Mais quand Ésaü a réclamé une bénédiction de remplacement, quelle bénédiction Isaac a donnée à Ésaü en remplacement? Ah, il a fait. Al-Harbecha Tihye. Tu vivras de ton épée. Alors on relit notre verset. Voilà ce que ça veut dire. Et Ésaü a haï Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée à lui, Ésaü. Laquelle? De vivre de son épée. Alors imaginez un homme qui est condamné à vivre de son épée. Il a un destin et une conscience de son destin tragique. Un homme, c'est un homme. Hein? Et voilà que puisque la bénédiction matérielle dans le bien est donnée à Jacob, il lui reste que la bénédiction matérielle dans le mal.
Pourquoi ça s'appelle bénédiction?
Je suis en train de parler. Tu m'interromps sur un mot. Combien de fois je vous ai dit ça? Une fois de plus, mettez-vous ça dans le crâne. On n'interrompt personne quand il parle. Surtout pas l'enseignant. Ken? Et je sais très bien ce que je dis, enfin. Tu es vraiment impossible. Je vous fais une leçon de morale, mais gardez-la. Donc, où vous avez appris à vivre? C'est un minimum de derrière-rêtes qui vous manque. Il ne faut pas vivre comme ça, enfin. Alors, je reprends. Donc, imaginez donc une conscience humaine qui se trouvait condamnée à obtenir les jouissances matérielles dans le mal. Et alors, la frustration va se porter sur celui qu'on considère comme responsable. Pourquoi Ésaü va haïr Jacob? Parce qu'il est acculé d'une certaine manière à ce destin de gagner sa vie par son épée. Quelle? Là, ça casse dans quelques minutes. Hein? Bon, vous savez bien cela? Hein? Et alors, ça a d'ailleurs des implications. Dans différents domaines, je vais vous rappeler un midrash que vous connaissez, lorsque le midrash dit que Dieu a proposé la Torah aux différents peuples et que les différents peuples l'ont refusé. Alors je vous rappelle l'argumentation du midrash. Lorsque Dieu propose la Torah à Ésaü, Ésaü demande qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah, dans sa Torah. Alors Dieu répond, tu ne tueras pas. Et alors Ésaü répond, je ne peux pas recevoir la Torah parce que la bénédiction que j'ai reçue de mon père, c'est tu vivras d'après par son esprit. Ça veut dire c'est dans son identité, sa destinée, si vous voulez, que il doit obtenir son pain par la guerre. Parenthèse dans la parenthèse. Vous avez en hébreu le mot qui signifie le pain est de la même racine que le mot qui signifie la guerre. Quelle est la racine? L'Echem et la guerre? Milchama. Oui. Et il n'y a que deux manières d'obtenir le pain. Soit dans le bien, on le travaille, soit dans le mal, on fait la guerre. Vous voyez, l'équation est très simple. Quelle? Alors, Ésaü est condamné à obtenir son pain par la guerre. Il n'y a qu'à voir ce qu'a été la civilisation romaine. La civilisation romaine, c'est l'art de la guerre au niveau de l'Empire. Vous avez certainement appris quelque chose de la civilisation romaine. La civilisation romaine, c'est l'art de la guerre. Alors, je reviens au verset. Ça veut dire que Ésaü a haï Jacob à cause de la bénédiction dont son père Isaac l'a gratifié à lui, Ésaü. Essayez bien de comprendre ça. Je vous donnais très rapidement, et on reprendra ça après la Hafsaka, une explication, on reviendra après à ta question. Vous avez un verset des psaumes qui montre bien le drame de ces êtres qui sont condamnés à faire le mal pour pouvoir manger. Ne croyez pas que leur conscience soit en repos. Il y a, encore une fois, une frustration. Il y a un verset des psaumes qui dit ceci. « A kefirim shoagim lataref ulbakesh meel ochlam » C'est un psaume qu'on dit dans la prière du Shabbat après-midi. Quand vous serez familier, vous retrouverez ce psaume. Le verset dit ceci. « Les lionceaux à kefirim shoagim rugissent lataref pour déchirer leur proie ulbakesh meel ochlam et pour réclamer de Dieu leur nourriture. » Alors, il y a apparemment une contradiction dans le verset. C'est que ça décrit la situation dans l'ordre de la nature. Lorsque les lions déchirent leur proie, ils rugissent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, réclamer de Dieu leur nourriture? Alors, le commentaire que je vais vous citer explique par rapport à notre problème. Ils rugissent parce qu'ils sont obligés de déchirer leur proie pour pouvoir manger. Et ils préféreraient réclamer de Dieu leur nourriture. Vous voyez comment l'équation de notre problème est très claire. C'est-à-dire, l'identité d'Ésaü devient telle qu'il est obligé de vivre sur son épée, par son épée, et il en veut à son frère de cela. Il est frustré dans sa vocation d'homme. Est-ce que c'est clair? Alors, je reprends très rapidement le sujet, et on fera une petite hafsaka. Et ce qu'on réclame de Jacob, c'est d'arriver à aimer Ésaü pour désamorcer cette haine. Si Jacob était capable d'aimer Ésaü, il désamorcerait cette haine. Je sais que c'est très difficile à suivre cela, comprenez bien. Or, Jacob ne peut pas aimer Ésaü, donc cette haine s'installe. C'est Israël va être capable de résorber ce problème, mais au niveau Jacob, il y a incapacité. Jacob est une identité humaine qui a l'option de l'esprit et que ça. Il n'y a rien de compatible avec Ésaü qui a l'option de la matière. Et donc Jacob ne peut pas aimer Ésaü. C'est ce que Rivka a compris, les deux frères ne s'aiment pas. On fait partie de cela. Que Ésaü n'aime pas Jacob, on comprend. Mais que Jacob n'aime pas Ésaü, ça faisait problème. Alors ce qu'il faut découvrir, c'est que Jacob est incapable d'aimer Ésaü. Et on ne peut pas le lui demander. Et voilà qu'il est l'objet d'une haine que la Torah explique. Il sera l'objet de la haine d'Ésaü parce qu'Ésaü est frustré à cause de la bénédiction que son père va lui donner en remplacement. Est-ce que c'est clair? Donc, je veux dire, là, vous vous rappelez, ça commence à répondre à ta question, vous vous rappelez que Isaac avait convoqué Ésaü pour lui dire « Apporte-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir ». Vous vous rappelez de cela? Et c'est Jacob qui apporte à manger pour recevoir cette bénédiction. Sur l'ordre de Rivka, on va voir ça dans le deuxième cours. Alors, ça veut dire que Ésaü fait le mal pour mener cette bénédiction qu'il y a à manger sur la table d'Isaac. alors que Jacob fait le bien pour qu'il y ait cette bénédiction à manger sur la table d'Isaac. Alors on prend la scène tout à l'heure. Alors, on est à la moitié de l'analyse. Okay, je vous résume, je crois que vous oubliez. Il y a deux tâches à résoudre, la tâche matérielle, la tâche spirituelle. On voit que les deux enfants ont les deux vocations, et par conséquent, on s'attend à ce que chacun reçoive la bénédiction qui va avec sa vocation. C'est clair ? On n'est pas du tout encore au niveau que l'un est tzadik, l'autre est rachat. Ça va devenir comme ça. Dans les deux cas, on pourrait être ou tzadik ou rachat. C'est clair ? Donc il y a quatre figures qui peuvent apparaître. Un Ésaü tzadik, un Ésaü rachat. Un Jacob tzadik, un Jacob rachat. Ce qu'il y a eu dans la réalité, c'est Ésaü rachat et Jacob tzadik. C'est clair ? Alors on va voir pourquoi Rifka intervient pour redistribuer les bénédictions autrement. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Il y a une seule équation possible, que Jacob soit Israël. Si Ésaü est Israël, là on a l'hypothèse chrétienne, c'est la catastrophe. L'homme de la matière qui s'occupe de l'esprit. Qu'est-ce qu'il en sort ? Une église. Alors que l'homme de l'esprit qui s'occupe de la matière, qu'est-ce qu'il en sort ? Une université. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Est-ce que c'est clair ? Donc, je reviens tout à l'heure. Regarde, donne-moi ma main. Pourquoi Isaac est satisfait lorsqu'il apprend qu'Ésaü, parce qu'il se rend compte qu'Ésaü a choisi la vie matérielle et que Isaac expira, et que Jacob a choisi la vie spirituelle ? C'est parce que par leur naissance dans la nature, ça aurait dû être l'inverse. Ésaü est né le premier, donc c'est lui qui aurait dû être le prêtre. Et Jacob, qui est né le puis-né, comme on dit en français, c'est lui qui aurait été l'homme du métier. D'ailleurs, dans les sociétés traditionnelles, il y a l'aîné et le cadet. L'aîné, c'est l'héritier du seigneur, du père, enfin, le père et le seigneur, dans la société féodale, et c'est le cadet qui, lui, va se vouer aux tâches spirituelles. C'est le cadet qui va aller à l'église, alors que l'aîné reçoit la seigneurie. Vous voyez un peu le problème. Dans la société hébraïque, c'est l'inverse. C'est l'aîné qui est voué à la prêtrise. Et donc le cadet qui devrait être voué au métier. Et alors voilà ce que Isaac projette. Il va y avoir réussi, puisque c'est celui qui naturellement est voué à l'esprit qui choisit la matière. Il va y avoir convergence des deux tâches. Il y a Ésaü est censé avoir une hérédité de prêtre, il est le premier-né. Il choisit la matière, c'est très bien. Jacob a une hérédité de travailleur, il choisit l'esprit, c'est très bien. Chez les deux tâches ont convergé. Tandis que, si celui qui est naturellement voué à l'esprit qui choisit l'esprit, il ne peut que se séparer de la matière. Si celui qui est naturellement voué à la matière qui choisit la matière, il ne peut que se séparer de l'esprit. Donc, le tableau pour Isaac est idéal. Tous les miracles sont arrivés. L'aîné a choisi la matière et le puis-né a choisi l'esprit. Et les deux tâches vont être résolues bien. Ça sera la matière d'après l'esprit et l'esprit d'après la matière. Et ils vont partager. Vous voyez, le plan idéal que voit Isaac. Rivka intervient parce qu'elle sait que ça ne marchera pas puisqu'ils ne s'aiment pas. D'accord. Et alors, voilà donc jusque-là notre problème. Je prends la deuxième partie. Il n'y a que quatre solutions. Soit que l'homme de la matière ne s'occupe que de la matière et l'homme de l'esprit ne s'occupe que de l'esprit. Il y a deux figures là déjà. Et l'unité des deux ne sera jamais atteinte. Soit que l'homme de la matière s'occupe de l'esprit, c'est la catastrophe. Parce qu'il va rendre l'esprit impur. Et soit que l'homme de la matière s'occupe de l'esprit, et ça c'est la réussite, parce qu'il va transfigurer la matière. Donc il y a une seule solution positive, c'est celle que Rivka va imposer. Que Jacob, qui a la bénédiction de l'esprit, reçoive aussi la bénédiction de la matière. Parce que si c'est Ésaü qui a la bénédiction de la matière, il ne partagera pas avec Jacob. Et s'il arrive jamais que Ésaü veut reprendre la vocation de l'esprit par repentir, alors il va rendre l'esprit impur. On va voir deux versets à ce sujet, mais je veux d'abord que le tableau soit très clair. Il y a deux vocations au point de départ, il y a quatre figures, il y en a une seule qui peut réussir des quatre, et une qui est une catastrophe. Ce serait Ésaü qui se prétend Israël. Mais pour que Jacob devienne Israël, ce n'est pas facile. Il faut que l'homme de l'esprit prenne aussi sur lui les tâches de la matière. C'est là que je voudrais que vous compreniez bien. On s'est habitué, au bout de 2000 ans d'exil, à ce que l'identité juive, c'est l'esprit, et la matière, c'est pour l'égoïsme. C'est pour ça que tellement de juifs, disons même de bonne foi, sont désorientés par le sionisme. C'est Jacob qui redevient Israël. C'est-à-dire, c'est Jacob qui quitte le ghetto de l'esprit pour s'occuper de fonder un pays. Voilà pourquoi énormément de juifs pieux ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Et ils croient que c'est trahir la vocation juive que de faire un pays. Ça, c'est pour l'égoïsme. Ça vous explique la position de ce qu'on appelle les orthodoxes antisionistes, enfin les gens du ghetto. Ils forment des ghettos juifs en Israël même. Est-ce que vous suivez? Et ils considèrent l'État d'Israël comme si, au pire, c'était un État goy. Parce que pour eux, l'État, c'est goy, par définition. Au bout de 2000 ans, on s'est habitué à être un Jacob qui n'est que Jacob. Et voilà que subitement, ce Jacob devient Israël. Et qu'est-ce que c'est Jacob devenant Israël? C'est Jacob prenant aussi les tâches d'Ésaü, alors il devient Israël. Ouais, ça vous étonne, hein? À quel point c'est simple? Et donc, on va voir ça dans les versets. Et effectivement, lorsque je veux décrire la scène de la substitution de bénédiction, qu'est-ce qu'il y avait dans la pensée d'Isaac? Lorsque Isaac s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui tombe par rond, alors il dit, la voix